La vie est une légende. Dans le royaume des ténèbres, le dieu Hadès dort. Que peut-il faire d'autre en ce mois de soleil, alors que celle qu'il aime va qu'à ses occupations agraires, là où la terre rit sous l'abondance de ses blés? Cerbère a posé ses trois têtes de chien aux crinières de lion sur les pierres glaciales bordant la rivière qu'aucun mort ne franchit, et Caro, le fidèle nocher, attend dans sa barque en somnolant, tout son corps suspendu à la gaffe inutile. Aujourd'hui encore, l'avare a l'impression qu'il n'aura pas même le plaisir de refuser le passage à un pauvre mort désargenté. De son côté, Hermès erre, l'âme chargée de songes, qui ne sait où poser, comme si les dieux n'avaient guère de messages à transmettre et les hommes guère l'envie de mourir en ces temps clairs de printemps. Rien ne semble devoir secouer la torpeur qui règne dans le monde d'Hadès. Ni la cinée dont celui-ci se coiffe pour se rendre invisible, ni les cris déchirants des tourments ne l'amusent plus. Depuis longtemps, Hadès s'ennuie en son royaume souterrain. Décidément, la mort n'est plus ce qu'elle était. Même la laine des Érinies ne brûle qu'avec tempérance, et leurs chevelures de serpents pendent sans vigueur. Mais soudain, l'eau du Styx s'agite. Cerbère grogne, le poil hérissé. Hermès, chaussé de ses sandales ailées, disparaît dans l'instant, pareil à une brise légère. Caron se frotte les mains et pousse sa barque jusqu'à l'autre rive. Dans la pénombre du souterrain, le corps d'une très jeune femme est allongé. La morsure d'un serpent est fichée dans la blancheur de sa cheville. Baiser rouge et intime, elle marque l'unique et malheureuse fin de cette poursuite amoureuse qu'Aristée fit subir à la belle dont l'âme, infime souffle d'air, s'attarde maintenant au-dessus de la tête sans vie. Eurydice est là, Eurydice n'est plus. Zeus règne dans les cieux ou Poséidon dans les océans. Sur la terre, un homme, mais n'est-ce pas déjà un héros? Un homme pleure, Eurydice. Rien ne vient apaiser son désespoir. Il hurle, il gémit, il implore, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il oublie les beautés de sa patrie, qu'il chantait hier encore pour couvrir les voix séductrices des sirènes lors de son retour de l'expédition des Argonautes. Il n'a plus mémoire des lois qu'il a données aux hommes pour orchestrer cette harmonie entre eux sans laquelle leur vie leur est impossible. Il ne sait plus qu'à sa voix les fauves s'apprivoisent, les rivières s'arrêtent de couler et les rochers s'attendrissent pour écouter la nature suspendue à sa propre respiration. L'absence d'Eurydice est plaie ouverte et palpitante en son cœur. Fou de douleur, Orphée se perd. Devant son regard vide et halluciné, toutes les têtes coupées que l'histoire offrira à l'humanité défilent en un manège dément. Il voit Salomé, impudique et lascive, qui dansera, puis donnera un baiser sans amour à Jean-Baptiste décapité. Il voit Denis portant sa tête sereine après avoir subi sans faillir les pires tortures. Il voit Louis XVI, il voit Louis XVI, qui ne sachant écouter les mots de la liberté, mourra guillotiné pour laisser sa place maudite de quatre condamnés à Robespierre qui, à son tour, ne croira qu'en la terreur. Et tant d'autres encore, dont les derniers mots seront de haine et de désespoir. Quelques heures plus tard, Orphée sort de ses cauchemars. Décidé à ramener Eurydice à la vie, il se saisit de sa lyre et prend le chemin des enfers. Avec les sons de son instrument, il couche Cerbère, il calme les damnés et apaise le juste courroux des Erinnies déchaînées. Caro est médusé par le charme opéré sous ses yeux, quand Hadès lui-même consent à recevoir le poète et lui accorde la vie d'Eurydice, une deuxième vie pour laquelle il ne pose qu'une condition, que jamais, durant le voyage de retour vers le monde des vivants, Orphée ne se retourne pour regarder sa bien-aimée. Étrange condition qui dit déjà tellement du malentendu des rencontres amoureuses, mais Orphée promet dans sa hâte. Le chemin est long qui mène à la lumière, et dans la nuit, Orphée oublie. Il oublie sa promesse, il oublie sa passion, et n'en garde que l'impétuosité. Il oublie combien est puissante la perfidie du dieu des ténèbres. Alors il se retourne. Et Eurydice disparaît aussitôt dans cet espace mortel que le regard d'Orphée posé sur elle a dessiné. Le monde des ombres se referme définitivement sur la plainte tardive du poète. De l'amour n'aurait-il pas mieux valu écouter le pas? L'oreille dit tant à celui qui a les yeux fermés. Mais il est trop tard. Orphée se meurt à son tour. De désespoir, certainement. De la sévérité de Zeus mécontent du dévoilement des mystères qu'Orphée a offert aux hommes, peut-être. De la main des Bacchantes mortifiées pour n'avoir pas été remarquées par le poète musicien, probablement. À leur tour, prise d'une subite folie, exaltant leur désir, les femmes de Dionysos laissaient derrière elles le corps démantelé dans leur fée. Sur l'herbe de quelque clairière, une main repose frémissante encore des dernières notes jouées sur la lyre maintenant brisée. Un peu plus loin, dans le torse immobile d'Orphée, le cœur a cessé de battre, et l'ombre d'une épaule se penche sur un narcisse dolent. C'est un désordre horrible que ce corps déchiqueté dans l'immense silence de la nature. Cependant, on devine le murmure d'une mélodie que les rives se renvoient en pleine sourde. La tête d'Orphée jetée dans les flots du fleuve commence un long et beau voyage. Son chant s'élève et transforme l'immonde démembrement en un vaste lieu de résonance pour d'autres amours, d'autres vies. Il rend possible toutes les poésies à venir, il prépare des musiques encore inexistantes. Et souvent depuis, les rossignols chantent plus clair, les fauves s'adressent aux dieux et les dieux écoutent les hommes. Souvent, mais pas toujours. 15 janvier 2004.